Bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. C'est une joie d'être rassemblés ensemble dans la présence du Seigneur. Et bien que il y a des temps, des fois, un peu plus difficiles où la température vient changer un petit peu notre condition. Et comme ce matin, je suis un petit peu grippé, mais c'est pas grave. Le Seigneur est là, tout-puissant, et nous soutient par sa main, sa droite triomphante. Donc, nous sommes là à la grâce de Dieu ce matin. Bien, le Seigneur a placé sur mon cœur cette semaine, et c'est souvent notre prière. Bien, Seigneur, dirige-nous, conduis-nous, amène-nous, Seigneur, dans la direction, là où ce que toi tu veux que je sois. Et le message, Seigneur, que tu as pour moi. Et lorsqu'on est dans cette condition devant le Seigneur, bien, on se dispose, oui, devant lui, on lui remet tout et on vient comme se prosterner, comme on a chanté tantôt, dans la présence du Seigneur, bien, ça fait du bien, ça réchauffe, et le Seigneur bénit et dirige chacun de nos cœurs et le mien en premier. Amen. Le Seigneur nous amène dans différentes directions. Je vais prendre un petit peu de chaud, un petit peu de temps en temps, parce que j'ai peur de manquer de voix. Donc, je priais pour cette semaine, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous, mais en même temps pour cette année. Hein, souvent, en début d'année, on a cette approche-là ou cette recherche de savoir, Seigneur, où tu veux nous diriger, où tu veux diriger ton Église pour cette année, quelle direction, qu'est-ce que tu vas nous dire. Et donc, pour cette année, le thème de cette année sera, ensemble, un cœur disposé à servir. Et bien entendu, on parle de servir Dieu. Mais comment est notre cœur et comment servir? Donc, on va toucher différents aspects de ce thème ou de ce titre du message aussi en même temps ce matin. Et le Seigneur m'a conduit dans un texte assez puissant, assez fort, pour commencer dans cette direction, dans sa direction. Et donc, ce matin, nous allons regarder ensemble le texte de Romains chapitre 12, le verset 1, et ensuite, on va aller au verset 11. Donc, on va sauter plusieurs versets, mais on va regarder quand même ensemble le contexte, comme on fait l'habitude, et différentes choses en ce qui concerne ces textes. Mais en entrée de jeu, je dirais, ou en introduction, je dirais que Romains chapitre 12 est dédié à l'Église, dont nous sommes l'Église du Seigneur, au corps du Seigneur, et il y a une marche, une direction que le Seigneur donne à son Église. Et dans ce premier verset, bien, nous pouvons lire ensemble, « Je vous exhorte », Paul nous dit ceci, c'est une exhortation, « qui est donnée aux frères et aux sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice ou un don de soi, un don qui sera aussi vivant, qui a de la vie, hein, qui respire. » Est-ce que nous sommes tous des personnes qui respirons ce matin? Amen. Le Seigneur nous a donné le souffle de vie, donc on a ce souffle de vie, cette vie en nous. Et qu'est-ce qu'elle sert, cette vie-là que le Seigneur nous a mis en nous? Bien, afin que nous soyons saints ou consacrés, agréables à Dieu, ce qui sera de notre part, de votre part, un culte ou un service spirituel rendu à Dieu qui va être raisonnable. Hein, c'est quelque chose de simplement raisonnable, de naturel, de normal, de vivre de la sorte, de chercher la sainteté, d'être agréable à Dieu. De lui offrir, comme nous avons fait aussi ce matin à travers les chants, les cantiques, un culte spirituel qui est dans son entier. On a seulement une partie ce matin Et maintenant, on va continuer, on va compléter avec la parole. Donc, tout service ou ministère doit toujours être un service aussi, une œuvre pour Dieu. Et le verset 11 qui vient amener une position assez importante pour le croyant. Verset 11 nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. » Donc, cette entrée, cette approche que Paul va nous donner a un but qui est d'avoir un zèle, quelque chose qu'on va regarder tantôt au travers le message. Qu'est-ce qu'un zèle que Paul parle? Dans quel sens est-ce qu'il dit cela? Et non, de la paresse pour servir Dieu. Et ces paroles ce matin sont une recommandation, une exhortation, comme nous avons vu, un appel à la consécration volontaire, de donner notre corps. Donc, donner notre corps comme un sacrifice qui est naturel, c'est un engagement aussi. Ça comprend un engagement autour de ça. À mettre notre cœur au service du Seigneur. Car cette année encore, le Seigneur désire se glorifier en nous ou par nous et dans notre vie. Et je prie que l'Esprit de Dieu vivant nous vienne en aide afin que nous puissions discerner et connaître ce qui plaît au Seigneur ou ce qui ne lui plaît pas et qu'il enlève ce qui ne lui plaît pas dans notre vie. Qu'importe ce qui m'arrive et qui va arriver, que nous puissions apprendre à lui offrir nos corps et toute notre vie, afin qu'il soit glorifié en nous et à travers nous, et que tous ensemble nous formions un seul et même corps en Jésus-Christ. Romains, chapitre 12 et le verset 2. C'est un petit peu la prière que Paul fait ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, encore un verbe si important, d'être, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Paul nous enseigne? De rechercher ces choses, de se disposer, de disposer notre corps, notre cœur aussi, encore plus important, à discerner la volonté de Dieu, ce qui pour lui sera agréable, bon et parfait. Il ne parle pas de ce que toi tu penses être agréable ou ce qui va être agréable à Dieu. Il ne suppose pas les choses, mais il porte les choses en avant. Il porte ces choses en avant. C'est pas des « peut-être que si tu veux, tu peux ». Être bon, agréable et parfait. Mais par le Seigneur, nous pouvons atteindre et faire ce qui est bon, agréable et parfait pour lui. Et Paul, verset 3, dira, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, Paul va s'en aller dans cette direction-là par la suite, en disant, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de s'humilier devant Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous avez reçu la grâce de Dieu, humiliez-vous maintenant devant lui, devant sa volonté, afin que lui soit glorifié en vous. La première partie de notre texte nous donne le contexte et la direction du chapitre, et ce verset nous donne toute l'étendue de la perspective de ce qui suit. L'Église, chaque croyant et chaque chrétien est exhorté par le moyen de la bonté ou des compassions de Dieu à s'offrir, à se donner et à se sacrifier pour servir le Seigneur, corps, âme et esprit, de tout donner au Seigneur. C'est ça, accepter le Seigneur et décider de le suivre. C'est pas de marcher avec un pas hésitant, c'est pas de faire les choses à moitié, mais c'est de tout lui donner. De tout lui donner la place qui lui revient dans notre vie, afin que lui soit glorifié à travers nous. On ne recherche aucune gloire, mais la gloire de Dieu. Et lorsque chaque chrétien, chaque enfant de Dieu recherche la gloire de Dieu dans sa vie, Dieu se manifeste et montre sa gloire, manifeste sa gloire au milieu de nous. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Autre traduction, nous dirons, « Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition. » C'est intéressant. Lorsqu'on regarde différentes traductions de notre texte, qu'est-ce qui ressort? Le Seigneur veut tout. Il ne veut pas en moitié. Il nous veut tout entier à lui. Il ne veut pas qu'il y ait des parties qu'on garde à nous. Mais il veut se manifester et se glorifier dans toute notre vie tout entier. Pas juste le dimanche matin. Pas juste lorsque je lis ma Bible. Mais à travers tout ce que je fais, tout ce que je dis et ce que je suis. De vous consacrer tout entier. Comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte qui sera logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ou à ce que le Seigneur te demande. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de naturel. Je devrais dire, ça devrait être naturel pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, de vivre consacré entièrement au Seigneur. De se disposer à chaque jour, chaque moment de sa vie au Seigneur. C'est pas quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur demande. Mais lorsqu'on agit, lorsqu'on fait ces choses, le Dieu extraordinaire se manifeste. Le Seigneur est manifestement grand et glorieux. On le chante et on le loue, on le lit. On le médite. On place notre confiance, notre espérance, notre amour en lui. Pourquoi nous donnerait-il pas toutes choses? N'est-ce pas ce que le Seigneur dit à Satan lorsqu'il fut tenté dans le désert? Dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, le diable ayant élevé, nous dit Luc, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances, toute cette puissance. Satan vient et te donne tout ce que tu veux. Comme le monde aujourd'hui. Je te donne toute la puissance, la gloire et ses royaumes. Et qu'est-ce qu'il dit? Car elle m'a été donnée. Vous savez que ce monde appartient à Satan? Au monde des ténèbres? Mais Jésus l'a vu venir. Hein, comme on dit. Jésus l'a vu venir. Et je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Et je te le donne... Je donne à qui je veux. Ce sont ses paroles. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Devant qui je me prosterne? Devant qui va mon adoration ce matin? Devant qui va ma révérence et mon service? Est-ce que c'est pour l'œuvre de Satan ou l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est pour les choses de la terre ou pour le royaume de Dieu que je travaille et que je fais le service lequel je fais? Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu le serviras lui seul. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le Seigneur est assez clair. Pour parvenir à l'aimer, à le servir selon ses exigences, je dois savoir que mon cœur doit lui appartenir tout entier et n'être soumis qu'à lui et à sa parole. Pas à peu près ou à moitié ou quand ça me tente, mais à tous les jours, à chaque instant de ma vie, parce qu'elle l'appartient. Elle lui appartient, ma vie. N'avons-nous pas remis notre vie au Seigneur quand on l'a accepté dans notre vie? Il ne peut pas avoir de la place pour les ténèbres et la lumière en nous. Nous avons besoin d'avoir toute la lumière du Seigneur dans notre vie, toute la place et l'Esprit de Dieu qui viennent nous remplir de sa présence. Le Seigneur ne veut pas que mon cœur et ma vie soient divisés, mais que j'aime et que j'adore, que je serve le Seigneur de tout mon cœur. Que je ne serve personne d'autre ou autre chose que lui. C'est ça qu'il veut. Ah, j'ai pas de bénédiction, le Seigneur me bénit jamais. Quand est-ce que tu t'es approché de lui? Quand est-ce que tu t'es donné à lui? Si tu l'as déjà fait. Dans Luc chapitre 16, verset 13, Jésus nous dit ici que nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et on sait que Mammon, c'est les richesses, la gloire, tout ce qui est personnel, ses propres intérêts même. Tout ce qui m'élève, moi comme personne. Dieu veut se manifester dans des cœurs qui sont humbles devant lui. Il veut se révéler et manifester sa gloire dans des enfants, des personnes, des hommes, des femmes qui se prosternent devant lui et qui remettent tout, tout, tout. Il est très important d'avoir donné notre vie au Seigneur en ayant reçu le pardon de nos péchés. Et ce pardon n'est accessible que par Jésus, que par l'œuvre de Jésus à la croix. Psaume 145, verset 8, nous dira que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, qu'il est lent à la colère et plein de bonté. Amen. Amen. Il est miséricordieux et compatissant. Il sait que nous avons besoin de lui. Et même si tu penses ne pas avoir besoin de lui, tu as besoin de lui. Le sacrifice que nous lui devons maintenant n'est plus ou ne s'accomplit plus par un animal ou autre chose, comme si nous étions encore sous la loi, mais par le don de soi. C'est rien de moins ou rien de plus que ça le demande. On n'a plus besoin de faire des sacrifices. On n'a plus besoin de se construire un temple, d'offrir des sacrifices à Dieu. Le seul sacrifice qu'il demande, qu'il te demande, qu'il me demande, c'est moi. Moi-même. Tu sais, là, celui qu'on voit dans le miroir le matin et qu'on se lève, c'est lui, c'est elle que le Seigneur veut, tout entier, avec ses perfections et ses imperfections. Jésus a payé le prix de notre rachat par sa vie, par amour et par grâce, car nous avons obtenu la faveur de Dieu. Cette réconciliation, nous l'avons avec Dieu, le Père, par la foi en son Fils. Dieu nous a fait grâce et nous demande maintenant de lui donner tout entier de nous donner tout entier à lui en retour. Le prophète Joël, c'est intéressant qu'est-ce qu'il y a à dire. On ne va pas souvent dans les petits livres, dans les petits prophètes, mais ici on voit, le prophète Joël nous écrit ceci dans son livre, qui en passant, son nom signifie en hébreu, son Dieu est éternel. C'est intéressant. Joël signifie que son Dieu est éternel. Il emploiera une image forte en disant ceci au chapitre 2 et verset 13 de son livre. Déchiré. Ça commence assez dur, hein? Le prophète nous dit ici déchiré, qui signifie en hébreu arraché littéralement. Mettre en morceaux vos cœurs et non vos vêtements. Arrache ton cœur, donne-le au Seigneur. Mets-le en morceaux devant lui. Déchire-le devant Dieu. N'est-ce pas une image forte, hein? Tu sais, quand on déchire quelque chose, il y a un son qui suit. Il me semble que je l'entends. Déchire ton cœur. Et non tes vêtements devant Dieu. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Il se repent des maux qu'il envoie. Parfois, notre vie est rendue dans la misère, est rendue misérable et on a de la difficulté à se relever. Et le sens que Joël nous donne ici est très fort. Que Dieu se repent même des maux qu'il donne si tu te repens devant lui, si tu déchires ton cœur, tu rouvres ton cœur devant lui, que tu lui donnes tout. Il y a un chant qui dit ça, hein? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Amen. Lorsque je brise mon cœur devant le Seigneur, que je reconnais mes fautes, mon péché, mes péchés, dans une repentance profonde, la compassion, la miséricorde du Seigneur fait une œuvre grandiose, extraordinaire. Dans moi, dans ma vie, dans mon être entier, il vient restaurer ce qui est brisé. Et il change ton cœur de pierre en cœur de chair. Devant lui. Il fait cette œuvre grandiose et extraordinaire que personne ne peut faire. Il y aura un spécialiste du cœur ce matin dans la salle, un médecin des cœurs. Il n'y a personne qui peut transformer un cœur et changer un cœur comme le Seigneur. J'aurais beau essayer de modeler un peu, essayer de l'amollir. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de la main de Dieu, car elle me libère, me purifie et me restaure entièrement. Elle m'attache au Seigneur, et je deviens une nouvelle création entre les mains de Dieu. Je deviens une nouvelle création. Vous savez qu'il y a juste Dieu qui est capable de créer? Nous, on peut inventer des choses, mais Dieu, lui, les crée. Et le sens de créer, lorsqu'on regarde même dans Genèse, à la création, c'est de faire quelque chose à partir de rien. Avec rien. Et nous ne sommes rien sans lui. Mais lui vient et nous crée en nous une nouvelle créature. Un nouveau être qui le glorifie entièrement, qui se dispose à lui, qui lui fait confiance. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, nous dit, mais Dieu qui est riche, n'est-ce pas, notre Dieu est riche ce matin? Amen. Notre Dieu est riche. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et j'aime cette partie-là. Il nous a rendus à la vie, pas seulement donner une vie nouvelle. Mais cette vie-là, elle est en Christ. Elle est en son Fils Jésus bien-aimé. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et verset 6 nous dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. » Hein? C'est important. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Paul termine encore ici en nous disant que c'est en Jésus-Christ que nous avons eu cela. C'est pas par nos forces, nos efforts, mais c'est en Jésus que nous avons obtenu cette grâce et cette place de pouvoir nous asseoir dans la présence du Dieu vivant. Qu'importe ce que nous avons perdu ou ce que nous perdons, ce que nous avons perdu dans ce monde, notre place est maintenant et pour toujours en Jésus. Et dans sa présence, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il n'y a personne qui peut nous arracher de cette place, parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a placés là. C'est lui qui nous a placés. Je suis en feu ce matin. Parce que c'est trop vrai, puis on l'oublie. On dit « venez dans la présence de Dieu ». On l'a, la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Je l'ai trouvé. Il vit en moi. Il vit en moi. Oui, on se rassemble ensemble dans la présence de Dieu. Mais on vient pas chercher la présence de Dieu. On l'a. On l'a, la présence de Dieu. Je réalisais ça, je préparais le message, puis c'est pour ça que je suis comme ça ce matin. Parce qu'on a cette tendance à dire, venez chercher le Seigneur, venez, on fait de l'évangélisation, venez chercher, venez voir le Seigneur. Où est le Seigneur? Il se trouve là où quelqu'un lui a donné sa vie. On va le voir tantôt, encore. Je ne veux pas te devancer parce que c'est... La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous n'avons plus besoin de chercher, de courir pour avoir la présence de Dieu, car nous l'avons avec nous et en nous. Dans Jean chapitre 17, verset 26, Jésus nous dit ceci. Lorsqu'il fait la prière sacerdotale, lorsqu'il prie son Dieu, notre Dieu, et dit, « Je leur ai donné, je leur ai fait connaître ton nom, en parlant de son Père. » Jésus est venu afin que nous connaissions le Père, le royaume de Dieu, et dit, « Je suis venu, ou je leur ai fait connaître ton Père, ton nom, pardon. » Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et que je sois en eux. N'est-ce pas une belle prière? Mais ce n'est pas juste une prière. Le Seigneur, lorsqu'il prie, ça s'accomplit. Ça, c'est fait. C'est accompli. Il vit en nous. Et son amour vit en nous. Le chapitre 12 et le verset 11 de l'Épître aux Romains poursuivra en disant, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et pour nous, frères et sœurs, et pour tous ceux qui prennent connaissance de toute la compassion que Dieu a exercée par amour, pour nous, nous venons de lire ce que nous avons reçu et expérimenté par la bonté et la compassion de notre grand Dieu ce matin. Qu'il est là, il est présent et il vit en nous et parmi nous. Paul exprime et exhorte chaque croyant à connaître l'amour qu'il a reçu et qu'il a poussé à servir le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'une personne qui vient au Seigneur veut servir? Parce que c'est naturel. Lorsque le Seigneur vient dans notre vie, on est tellement heureux et content qu'on veut le partager. On a déjà commencé à œuvrer pour lui, on témoigne son nom. Et en plus, le Seigneur va te diriger vers une assemblée où ce qui prêche l'Évangile de Christ, où ce qui prêche le salut en Jésus-Christ, afin que tu le serves de tout ton cœur. Et ça, ça vient avec la présence du Seigneur. Ça vient par la présence de l'Esprit en nous qui nous pousse à le connaître, à connaître son amour, sa grâce, sa compassion et à servir de tout notre cœur. Paul dira, verset 21, « Ayez, hein, » qui nous dit d'avoir au présent, en parlant du zèle, « Ayez du zèle. » Ce n'est pas quelque chose qu'on doit perdre ou qu'on doit délaisser, mais c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir et nourrir. N'est-ce pas ce que notre amour pour le Seigneur devrait produire dans nos cœurs et notre vie, qui ne nous appartiennent plus? Vous savez, lorsque j'accepte le Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Elle lui appartient. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, Paul dira ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » C'est pas moi qui l'invente. La parole de Dieu est claire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tantôt, c'est pour ça que je disais ça, que je voulais revenir avec ce point-là, parce que tantôt on parlait que le Seigneur est venu en nous. Et c'était sa prière, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17. Mais il nous dit aussi, « Je vous enverrai le Consolateur. Il est avantageux même que vous receviez le Saint-Esprit, que je vous envoie le Consolateur. » Parce que nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, chaque chrétien, chaque croyant est le temple de Dieu, du Dieu vivant. Et si le temple de Dieu est en nous, wow! Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour être encouragé, pour être fortifié, pour être guéri, pour être... Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié sur son côté, lui aussi, comme nous on ferait ou qu'on est porté à faire des fois. Lui, lorsqu'il donne, il donne tout entier. Jésus s'est donné tout entier et a tout accompli. Il n'a pas accompli à peu près ou en moitié ou... Peut-être que non. Il a tout accompli. Et toutes ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et si son oui et amen en Jésus-Christ, c'est que le Seigneur vit en moi ce matin, que son esprit vit en moi et que je suis le temple de Dieu, du Dieu vivant. Et ça, c'est pour chacun de vous. Et lorsqu'on se rassemble, c'est afin de voir la gloire de Dieu dans l'Église. Je dirais comme les anges qui regardent dans l'Église pour voir la diversité des dons de Dieu et de la gloire de Dieu dans le corps. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous enseigne? Nous sommes tous ensemble, frères et sœurs, afin de s'édifier ensemble comme un temple vivant et spirituel et des personnes qui se donnent à Dieu. Ce n'est pas un show, un spectacle ou anodin ce qu'on fait ce matin et pour la raison laquelle on est là. C'est parce que le Seigneur veut se manifester au milieu de nous. Il veut se révéler en nous par sa parole. Jésus nous dira, il dira à ses disciples, à ceux qui le suivent et le servent, dans Marc 9, 41, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. » Mais regardez ce que le Seigneur dit. « Parce que vous appartenez à Christ. » Parce que vous m'appartenez, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Même un inconverti qui vient et te donne quelque chose dans ton besoin ce matin va être béni par le Seigneur parce qu'il a nourri le temple de Dieu. Parce qu'il a nourri un enfant de Dieu. Avez-vous imaginé si on s'entraide dans l'Église? Et lorsqu'on le fait, comment est-ce que le Seigneur est glorifié au travers de cela? Nous avons besoin de prendre conscience que nous devons être zélés pour le Seigneur et le service de Dieu. Ce mot désigne une ardeur intense, une passion, une dévotion totale et même un empressement. Est-ce que je suis encore pressé d'aller servir le Seigneur, d'aller témoigner son nom, de faire des choses pour le Seigneur, même si parfois ça peut me coûter, moi, quelque chose, de mon temps, de mon énergie, de mes capacités. Une dévotion totale et même un empressement, un besoin qui est pressant. Est-ce que j'ai encore ce zèle-là que donne l'Évangile de paix? D'être pressé d'aller servir. D'avoir hâte. C'est ça que ça veut dire. Hein? Paul emploie une contradiction pour nous aider à comprendre. En opposition à zéler, il parle de paresse. Mais la paresse qu'il parle ici a un sens du grec qui est spécial, qui est défini principalement dans les Écritures par être faible. La paresse, c'est d'être faible. C'est ça que ça représente, la faiblesse, une tiédeur. Et dans la définition aussi, ça nous parle de traînard ou nonchalant et retardataire. En bon québécois, pas pressé. Je suis pas pressé. Le Seigneur me demande de quoi? Je vais y aller, mais que j'aille le temps. Le Seigneur a un besoin pour quelqu'un, puis te met à cœur d'aller. J'irai plus tard, Seigneur. Là, je suis bien dans mes pantoufles. J'ai pas fini mon café. Ma chaise berçante est bonne. J'étais à chaleur devant le foyer, deux pieds. T'as l'heure. Est-ce qu'on est un petit peu comme ça parfois? Est-ce qu'on se laisse aller à la tiédeur? Ou plutôt à la paresse pour les choses de Dieu? On ne se confiera pas ici ce matin. Faites-le devant le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, voit notre cœur. Lui voit notre cœur. Il sait où est-ce qu'on en est. Proverbe chapitre 13, verset 4. Ce proverbe nous dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne puisse satisfaire et qu'il n'arrive à rien. C'est ça que ça amène la paresse. Lorsqu'on est paresseux et non zélé pour les choses de Dieu, on parle du milieu spirituel ici, bien ça l'affecte même dans la vie physique. Et lorsqu'il parle, c'est l'âme du paresseux, ça vient de l'intérieur, hein, a des désirs qui ne puissent satisfaire et qui n'arrivent à rien. Mais au contraire, nous dit le proverbe. Ceux qui travaillent dur et l'âme des hommes diligents ou les souhaits des gens actifs obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils seront comblés et seront rassasiés par Dieu. Plus que je vais m'investir pour le Seigneur, on va le dire simplement, plus que je vais m'investir pour le Seigneur, plus que je vais obtenir ses faveurs. Plus que le Seigneur va se manifester et se glorifier dans ma vie. Au contraire, plus je vais être paresseux, puis je vais me laisser aller, bien moins je vais voir la gloire de Dieu, puis moins je vais voir le Seigneur agir dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que mon intérêt n'est pas là. J'avais entendu quelqu'un qui disait, vous savez, c'est difficile d'apprendre une langue à notre âge. Plus qu'on prend de l'âge, plus que c'est dur. Mais il dit, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, si vous prenez 15 minutes par jour pour apprendre une langue, au bout d'un an, on va avoir de la facilité. Ça peut être plus long un peu pour certains. C'est plus dur à rentrer, mais que ce soit dans un métier, que ce soit dans n'importe quoi qu'on veut connaître, qu'on veut grandir, si on investit du temps, même si c'est un petit peu de temps, à tous les jours, après un an, il va se passer quelque chose. Parce qu'on est actif, ça va produire quelque chose. Mais si je suis paresseux, j'arriverai jamais à rien, puis il n'y a jamais rien qui va changer. Il y en a qui disent, il n'y a rien qui change dans ma vie. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta vie? Le Seigneur ne fait jamais rien pour moi. Est-ce que tu lui as donné la place pour qu'il puisse agir dans ta vie? C'est important. C'est important. Paul ajoute au mot paresse, dans son contexte, dans le passage, l'expression fervent d'esprit. Et ça, je dis, pourquoi est-ce que Paul parle d'être zélé, d'être paresseux, et va amener cet aspect-là d'être fervent d'esprit? Dans le mot fervent contient une notion de température. C'est intéressant. Et ça nous parle que ça signifie bouillir de chaleur dans la définition grecque. C'est dans la définition. Ça nous parle de bouillir de chaleur, être fervent d'esprit. Quand il utilise en référence, j'ai été chercher des textes qui expliquaient un petit peu aussi le sens. Donc, ça nous dit, ça signifie bouillir de chaleur quand il utilise en référence avec des liquides et rayonnant quand il est employé en relation avec des solides. OK. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Et on ajoute d'esprit. Nous apprenons que l'apôtre fait référence dans ce contexte au service, dans notre contexte ici. Donc, fervent d'esprit, il parle de spirituel, de choses spirituelles. Donc, à l'œuvre et à la mission de Dieu pour chacun de nous. Ce qui touche autant son intervention en nous, et envers celle des autres, des témoins et des témoins fervents et brûlants à le servir et à témoigner son nom dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Paul lorsqu'il parle de fervent d'esprit? Encore une fois, d'être bouillant, rayonnant, lorsqu'on s'investit pour le Seigneur. Un peu comme quand on s'en va à un mariage. On est allé à un mariage cet été, haïtien, c'est ça? La dame qu'on avait aidée, le mariage, ou africaine, c'était coloré. C'était brillant, c'était beau. Il y avait de la couleur. C'est pas un... Le Seigneur ne veut pas qu'on soit sombre, habillé en noir, puis terne, mais il veut qu'on ait de la couleur. Quelque chose qui rayonne. Et la spiritualité, ce que le Seigneur nous demande dans le service, doit rayonner. Pas quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire, ou par habitude, ou parce qu'on remplace quelqu'un. Mais même si on remplace quelqu'un, on doit le faire avec ferveur, avec bouillance. Je veux dire, ça se dit-tu? Avec bouillance. Avec rayonnance. Parce qu'on sert le Seigneur premièrement. Dans tout ce que nous faisons, nous servons Dieu. Certains commentaires font aussi référence à ce que Jésus disait en ce qui concerne ceux qui sont la lumière dans le monde, dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus disait, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? » Même au sel, hein, il y a de la saveur à une somme la bonne odeur de Christ. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes la lumière dans ce monde de ténèbres. Et le Seigneur veut qu'on brille, veut qu'on soit même brûlant et bouillant pour lui, afin que lui soit glorifié en toutes choses. Nous retrouvons aussi cette expression d'être zélé ou fervent d'esprit dans lorsqu'il concerne d'être zélé qu'avait le zèle qu'avait Apollos dans Actes chapitre 18 verset 25. Ça nous dit ici qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Apollos? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il était fervent d'esprit. Et la définition de fervent d'esprit vient avec annoncer et enseigner avec exactitude ce qui concerne le Seigneur. C'est ça qui le passionnait. C'est ça qui bouillait en lui, de faire connaître l'Évangile, de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et cette passion-là est comme une lumière, est à l'exemple qu'on a de quelque chose qui brille, qui resplendit. Pourquoi? Parce qu'il l'a vraiment à cœur. Ça paraît, hein, quand quelqu'un a vraiment quelque chose à cœur. Il en parle, ah ben, c'est les affaires vont bien, là, puis c'est un béni cette semaine. Ça n'a pas l'air trop encourageant. Mais lorsque on réalise que le Seigneur a intervenu dans ma vie cette semaine, le Seigneur a manifesté sa présence, a manifesté sa gloire, a fait un miracle cette semaine, mon teint de voix va changer peut-être un petit peu. Ben, il devrait peut-être. Il devrait avoir quelque chose qui s'est passé en dedans qui paraît à l'extérieur. Et lorsqu'on est fervent d'esprit, c'est ça qui arrive. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ressort. N'avons-nous pas la présence du Seigneur, la présence de l'Esprit en nous? Ça devrait paraître à quelque part. On devrait être zélé, bouillant et rayonnant. Lorsque quelqu'un me parle du Seigneur, ben, je sais pas, mais moi, les oreilles, on a vendu une gadget la semaine passée sur Internet. La personne, elle vient, on fait la transaction, tout, elle s'en va. Elle dit, Seigneur bénisse, oh, un petit peu. Hein? Oups! Il dit, tu connais le Seigneur? Tu es dans quelle région? Dans quel bout? Puis commence à s'intéresser. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Là, que... C'est ça, être fervent. Il arrive des choses, puis tu es à l'écoute. T'es sensible à la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit. Et lorsque quelqu'un te parle, le Seigneur te dirige, t'amène dans des directions, te parle et tu peux pas ne pas manifester cette ferveur-là. C'est comme ça vient et ça brûle en dedans de nous. Donc, je terminerai avec ceci, frères et sœurs, la compassion, le salut, la délivrance que nous avons reçu du Seigneur devrait ou doit produire une passion et un engagement envers lui qui bouille en nous-mêmes et qui rend un zèle brûlant pour le service, pour son service. Ce service est dans la nature de celui qui s'est consacré au Seigneur, qui a été pardonné et sanctifié par lui. Et c'est seulement à ce moment que la mission à laquelle nous avons été appelés produira en nous d'être fervents d'esprit au service de l'Église et à l'extérieur de l'Église, pas seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. On ne brille pas juste ici le dimanche matin, mais j'espère. Mais à l'extérieur aussi. Nous sommes appelés à rayonner et à être fervents dans nos rapports avec les autres. Que la présence du Seigneur soit comme du microbe, contagieux. On a parlé beaucoup de microbes parce qu'on a la grippe. C'est le lien qui me vient de suite. Qu'on soit contagieux pour le Seigneur. Qu'on ait envie de le partager. Qu'on ait envie de partager que nous avons le Seigneur. Nous avons le Seigneur. Nous ne servons plus Satan et le monde, mais nous servons le Dieu vivant. C'est Dieu vivant que nous servons. Le texte de ce matin termine en ces trois mots. Servez le Seigneur. Car oui, c'est lui que nous servons. Et notre cœur doit être disposé aussi à le servir, mais aussi avec ferveur, passion et engagement profond, et par un cœur qui est agréable. Un cœur qui a été touché par le Seigneur ne peut pas rester insensible, ne peut pas rester muet et sans émotion. C'est quelque chose qui paraît et qui se transmet. Que le Seigneur nous conduise et nous dirige cette semaine avec cette passion, ce zèle, afin qu'on soit fervent d'esprit nous aussi. Terminé avec un mot de prière, je vous invite à vous lever pendant que l'équipe de louanges avance. Ils sont capables de prier en marchant. Bien, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton esprit qui nous conduit, nous dirige dans toute ta vérité. Parce que oui, Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Et nous savons, Seigneur, tout ce que tu accomplis, tout ce que tu nous as révélé, que tu te révèles encore aujourd'hui, c'est que oui, tu veux continuer cette œuvre bonne que tu as commencée en nous, afin de la rendre parfaite pour le jour où Christ paraîtra, où tu viendras chercher ton Église. Mais en attendant, Seigneur, nous te prions de toucher nos cœurs, de toucher notre vie, de faire rayonner, de nous faire rayonner, de faire rayonner ce feu, Seigneur, en nous, afin qu'on soit fervent, comme Apollos, Seigneur, qui a été et qui a fait la mission à laquelle tu l'avais appelé. Seigneur, aide-nous à être à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ton esprit. Donne-nous la capacité, là, Seigneur, où il nous en manque, donne-nous la connaissance, Seigneur, là où nous n'en avons pas, par ton esprit. Et Seigneur, remplis-nous. Ce que nous avons le plus besoin, c'est d'être remplis par ton amour. Seigneur, merci pour cette grâce, cet amour, ce don que tu as manifesté envers nous et nous voulons qu'en être reconnaissants, en t'adorant, en te rendant toute la gloire, l'honneur, la puissance, mais aussi en nous donnant nous-mêmes comme un sacrifice de bonne odeur dans la présence de Dieu ce matin. Nous te prions et nous te remercions pour toutes choses. À toi la gloire, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles à venir. Amen et Amen. Soyez bénis. Passez une belle semaine.